Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock & Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Chaque semaine, nous avons rendez-vous et pendant 30 minutes, je partage avec vous mes lectures, celles qui m'auront permis le voyage bien sûr, les bonnes, les seules, celles qui resteront à l'intérieur de moi longtemps, très longtemps et pour certaines, pour toujours, celles avec lesquelles on dansera même après la mort, allez savoir. Des romans, des bouquins pour la jeunesse, des bandes dessinées, qu'importe les flacons, pourvu qu'on ait l'ivresse. Je chronique les ouvrages, j'interviewe les auteurs et puis, et tout est là, je vous propose une playlist par ouvrage évoqué. Au sommaire de ce numéro, une bande dessinée forte, très forte, urgente même, j'ai envie de dire. Son titre est sans appel, c'est 20 ans ferme, sous-titre un récit pour témoigner de l'indignité d'un système. Ses auteurs sont au scénario Sylvain Ricard et côté illustration Nicobi. L'éditeur de cette bande dessinée qu'il faudrait distribuer partout et aussi dans les ministères, c'est Futuropolis, souvent présent quand c'est du grand et bon en bande dessinée. Et encore une fois, c'est avec beaucoup de fierté que je recevrai d'ici une poignée de minutes Sylvain Ricard qui, bien mieux que moi, vous en causera de cette bande dessinée. La sienne en l'occurrence, mais en attendant ce rendez-vous, laissez-moi vous envoyer dans les oreilles comment je vous en présenterai le propos, moi, de 20 ans ferme. C'était les Clash aujourd'hui dans Rock and Page avec I Fought the Law, dont le texte cause aussi clairement du milieu carcéral, parce que le fait est que dans 20 ans ferme, la bande dessinée à l'honneur aujourd'hui dans Rock and Page, c'est de ça dont on va causer. Elle a été écrite par Sylvain Ricard, que je recevrai d'ici une poignée de minutes, et dessinée par Nicobi, le tout édité chez Futuropolis. Comme son titre l'évoque, 20 ans ferme est une bande dessinée qui permet au lecteur une plongée dans l'univers carcéral et qui permet au projet initial de dénoncer encore et toujours les conditions de détention, la démagogie de l'État sur ce sujet et ce que doit vivre un homme ou une femme ainsi détenu, enfermé, ce qu'il a à payer en plus de sa peine légale. À l'heure où on crierait bien matin, midi et soir, ferme ta gueule, car nous vivons un moment où les gens se croient absolument autorisés à tout dire, y compris s'ils sont enfermés, c'est qu'ils le méritent, s'ils sont humiliés, c'est qu'ils le méritent, je crois qu'il est important de ne pas baisser les bras et de continuer de dire, de témoigner et de faire du bruit sur de tels sujets, sur tous les fronts, et ce, tant que l'énergie ne nous a pas totalement encore quitté. Et puis, si je me permets une parenthèse plus personnelle, cette bande dessinée, je l'ai aussi choisie car j'y suis entré dans la prison, il y a de cela quelques années désormais, dans une prison d'hommes, avec mon enregistreur et mon micro fouillé, bien sûr, à l'entrée et à la sortie, en poche, et que j'y ai réalisé en prison des émissions littéraires aussi, aux côtés d'hommes ayant pris eux aussi 20 ans ferme et parfois plus, et que j'y ai non seulement rencontré des hommes exceptionnels, mais que j'y ai aussi été témoin de conditions abominables de détention, parenthèse refermée. Sylvain Ricard se chargera de vous raconter comment est né ce projet de bande dessinée. En attendant, je peux vous rappeler en passant que ni lui ni Kobe sont de jeunes premiers et que chacun dans leur domaine ont de nombreux titres à leurs actifs, de nombreuses responsabilités tout aussi. Alors, ici, avec 20 ans ferme, un récit pour témoigner de l'intimité d'un système, Sylvain Ricard et Nicobi, donc, réussissent le pari de faire entendre une voix qui témoigne, une voix enfermée qui dénonce les conditions de détention en France au XXIe siècle, au XX et au XXIe siècle. Une voix, celle de ce Milan, le personnage central, qui n'existe évidemment pas, au détail près, qu'un homme bien vivant, lui ressemble à s'y méprendre. Ça, vous aurez les explications et les éclaircissements dans l'interview qui va venir avec Sylvain Ricard. Quand on ouvre la bande dessinée, on est face à Milan, qui embrasse sa compagne, c'est le matin, elle est encore au lit. Celle-ci lui demande s'il rentrera tard et il lui répond qu'il ne sait pas, mais qu'elle ne l'attend pas. Et pour cause, nous sommes en 85 dans les Alpes-Maritimes et Milan ne rentrera chez lui que des années après 20 ans ferme. Et ces années-là, Ricard et Nicobi vont nous permettre de les appréhender un peu de l'intérieur. Et on va une nouvelle fois constater que la prison ne fait que déshumaniser, détruire un peu plus encore ceux qui s'avèrent souvent être les plus faibles au départ, celles et ceux qui ont eu le plus de carences et de difficultés de tous ordres au départ, c'est-à-dire en naissant. Je ne vous ferai pas un catalogue à la Prévert de ce que va avoir à subir, à supporter Milan pendant toutes ces années. Vous en aurez la désagréable, voire insupportable surprise en lisant la bande dessinée. Je préfère vous parler du fait que des Milan, il y en a sûrement 1%, et que pour des années, même enfermé, il refusera de fermer sa bouche, d'étouffer toute son humanité face au système. S'en suivront évidemment les pires et inimaginables représailles par le système lui-même, chapeau balai. L'État qui ferme les yeux. Milan est un être d'exception, fort comme on n'en fait plus. Et puis, grâce à ses rencontres, probablement, grâce au fait d'être même aimé à l'extérieur, je crois qu'enfin, j'y ai lu, moi, qu'il finira par comprendre quelque chose, enfermé ainsi, et qu'il finira par sortir et par se refaire une vie. Une vie semée d'embûches de l'après, évidemment, mais une vie rangée et dont il peut être fier, mais de cela, je suis certaine que Sylvain Ricard nous causera. Ricard signe un texte qui va à l'essentiel, il fait reposer la narration sur les éléments chronologiques de la vie de Milan et Nicobi appuie ses propos par des doubles pages ou des séquences qui parfois ne revêtent qu'une seule et unique couleur, toujours très oppressante, à l'image des propos, à l'image des faits surtout. Les tout dernières pages voient l'apparition d'une voix totalement extérieure au récit qui, elle, oui, avec une pointe d'ironie, juge en grand ce que la France décide de laisser faire en matière de réinsertion ou d'incarcération et de prison donc. La toute dernière bulle est une citation de Badinter, comment ne pas penser à lui, lui qui si seul s'est battu pour la dignité de toutes ces femmes et ces hommes détenus. Moi, ce Milan si fort, droit face à ses actes, son destin et droit face à l'injustice, je vous le dirai bien comme ça.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à...
Dominica, aujourd'hui dans Rock'n'Page avec Rendez-nous la lumière, pas tant pour le texte qu'on se le dise, quoique, mais bien plus fort pour la force, le rythme et le souffle épique qui s'impose dans ce titre, pour vous dire ce personnage central, Milan, de cette bande dessinée, 20 ans ferme, un récit pour témoigner de l'indignité d'un système. Cette bande dessinée signée Sylvain Ricard et Nico Bi, parue chez Futuropolis en 2012. Et puis d'ailleurs, tiens, puisqu'on en cause, il est tout de suite maintenant grand temps pour moi de recevoir Sylvain Ricard. Sylvain Ricard, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock'n'Page. Merci aussi pour ce très fort récit que vous nous offrez avec 20 ans ferme. À l'intérieur de la bande dessinée, on trouve un certain nombre d'explications sur la naissance de ce projet particulier. Mais s'il vous plaît, racontez-nous donc quel genre de rencontre vous a permis de réaliser 20 ans ferme.
Et bonjour, et merci de m'inviter et de reparler de ce livre qui a bientôt 10 ans. En fait, il y a une douzaine d'années, j'ai été amené par l'intermédiaire de mon frère à rencontrer Milko Paris, qui était le président de l'association Banc Public, qui est une association d'aide à la réinsertion et d'aide aux familles des prisonniers. Et qui m'a dit, tu devrais le rencontrer, toi qui aimes bien toutes ces choses un peu sociales qui touchent à la prison, etc. Ce Milko va te passionner, et je l'ai rencontré, et effectivement c'est quelqu'un d'absolument passionnant, avec une vie assez incroyable, et avec surtout une réflexion et une intelligence vis-à-vis de la situation carcérale en France, des problématiques sociales, et toutes ces choses-là, qui est assez étonnante et qui m'a fait comprendre un certain nombre de choses. Et donc, de discussion en discussion avec lui, au bout d'un moment, je lui ai dit, tu sais, Milko, j'aimerais bien raconter ton parcours carcéral, se servir en fait de ton parcours comme d'une tribune, finalement, pour dénoncer un petit peu ce système qui marche sur la tête. Et il a accepté bien volontiers de parler avec moi des heures, en n'occultant absolument aucune question, y compris les questions de sexe, de masturbation, de violence, de sa propre violence, etc. etc. Et de tout ce témoignage que j'ai accompagné d'un certain nombre d'autres conversations que j'ai eues avec d'autres anciens prisonniers, j'ai construit ce récit de 20 ans ferme qui retrace quasiment intégralement son parcours carcéral du moment où il a été attrapé à Nice jusqu'au moment où il est sorti de prison en 91, je crois.
Alors j'imagine que vous lancez dans ce projet parce que ce n'est pas directement... Une biographie est une sacrée responsabilité, surtout quand on n'a pas vécu soi-même l'univers carcéral. De quoi est-ce que vous avez eu peur pendant l'écriture? Qu'est-ce que vous teniez à éviter absolument?
Je tenais à éviter de faire de cette tribune quelque chose d'un petit peu pathos ou moralisateur, ou voilà, quelque chose qui m'intéressait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, je ne voulais surtout pas... être le truchement d'une position qui n'était pas la mienne, à savoir que moi je ne suis pas abolitionniste, je suis plutôt pour une réforme et pour une intelligence vis-à-vis des réformes qu'il faut apporter au milieu carcéral. Et donc c'était jouer là-dessus et puis essayer d'être le plus fidèle possible au travers d'un personnage qui est fictif, mais en fait il s'appelle Milko, c'est quand même assez proche. Et finalement, 99% de ce qui est dans le livre, c'est vraiment ce qui s'est passé dans la vie de Milko. Je voulais être au plus proche de sa sincérité à lui, en fait. Donc en fait, ma difficulté, c'était plus de ne pas trahir ce qu'il a vécu, au fond. Alors évidemment, il a relu des pages, etc., mais il s'est toujours interdit, à part vraiment des pétouilles, il s'est toujours interdit de me dire ce que je devais faire ou ce que je ne devais pas faire. Voilà, il m'a laissé faire le livre que je voulais, c'était un peu le contrat de départ.
Alors évidemment, le travail de l'illustrateur Nico Bi est très important aussi. Par exemple, ce choix de couleurs, d'aplats de couleurs parfois uniques pour servir, pour soutenir un propos, c'est très réussi. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble concrètement?
On a bien travaillé ensemble parce qu'on s'entend très bien, on est assez copains dans la vie. Même si on se connaissait assez peu avant de commencer le livre. En fait, Nico, et au départ, c'était pas évident que ce soit des sujets qui l'intéressent. C'est pas vraiment le genre de bouquin qu'il fait dans sa carrière. Il se trouve que sa femme travaille dans une banque et que quelques semaines ou quelques mois avant que je lui propose ce scénario, elle a été braquée. Donc, elle s'est retrouvée avec un flingue sur la tempe, etc., etc. Elle a été assez traumatisée, pour être tout à fait honnête, et ça se comprend. Et en fait, c'est ce Du coup, au début, il a refusé en bloc de faire ce travail. Et c'est en discutant avec sa femme, en fait, que lui est venue l'envie de comprendre ces personnes qui braquent, etc. Et on a commencé à travailler ensemble. Moi, j'ai imposé un certain nombre de contraintes qui sont les contraintes du gaufrier, si vous voulez. Donc, c'est 3 cases par 3 cases.
D'accord.
Et une contrainte de rythme que je voulais absolument imposer, parfois de cadrage, mais pas toujours. Et à lui, à l'intérieur de se débattre, il a eu la liberté totale de mettre en scène le reste et une liberté totale d'utiliser les jeux de couleurs qu'il avoue d'ailleurs avoir beaucoup travaillé selon l'ambiance. Mmh. Et donc voilà, c'est lui qui a fait un choix. Lui, ce qui l'inspirait cette scène-là, c'était de faire des unités de couleurs dans les rouges, oui, dans les bleus, dans les gris, en fonction de si Milko était dans une période de colère ou de révolte, ou bien s'il était au mitard, oui, ou si au contraire, il était dans des endroits où il était un petit peu plus paisible.
Tout à fait. Alors moi, j'ai vu dans... Alors, même si j'ai senti très fort, et peut-être que vous l'avez dit à demi-mot, mais que pour que le projet existe, ben, il a fallu aussi un tout petit peu cette admiration que vous avez pu avoir en rencontrant celui qui est, entre guillemets, Milan dans la vraie vie, donc Milko. Et puis, c'est effectivement le personnage central auquel on s'attache avec une force folle, parce qu'il est foncièrement honnête dans ce qu'il est, il est foncièrement fragile, et c'est un homme droit, en fait, c'est ça. Vous être quelqu'un qui a volé, etc., etc. C'est un homme droit, en fait. Et puis, sur la fin du récit, j'ai vu dans une des scènes de parloir que vit Milan avec sa compagne, qui, en passant, disons-le, elle aussi est tout à fait admirable. J'ai vu une sorte de prise de conscience par ce personnage, Milan, une sorte de décharge électrique qui va lui permettre d'envisager son incarcération différemment. Diriez-vous que cette femme dans sa vie a fait partie de ses grandes chances, en plus de l'homme avec un grand H qu'il est, lui ?
Je pense que, alors je connais pas tout le détail, etc. Puis la vie de Milko et ses compagnes, c'est quelque chose qui lui est propre. Et je pense que la compagne à ce moment-là n'est pas du tout celle qu'il pourrait avoir aujourd'hui. Enfin voilà, la scène avec sa compagne, en fait, elle est plutôt symbolique de tout ce que vivent les prisonniers seuls, isolés, finalement, dans une forme de misère affective. Mmh. Et ce que vivent aussi les gens de l'extérieur qui sont condamnés en même temps que leur compagnon ou leur compagne, que les enfants qui sont compagnés comme leur père, leur mère, leurs cousins, frères, sœurs, enfin voilà, des choses comme ça. C'était aussi raconter la détresse de tous ceux qui sont à l'extérieur. Mmh. Et le soutien qu'ils peuvent parfois apporter, qui est considérable, qui leur permet de ne pas sombrer soit dans la violence, soit dans la dépression, soit dans tout un tas de choses qui sont qu'on pourrait comprendre. Mmh. À mon avis, le déclic, il me semble d'ailleurs de me souvenir d'avoir discuté de ça avec Milko, c'est une visiteuse de prison qui le lui a donné. Je me demande, c'était pas une des responsables d'une association assez importante qui visitait les prisons.
Mmh. Telle que le Génépi, par exemple.
Je sais pas, je suis pas sûr que c'était le Génépi, mais okay, c'était plutôt une dame âgée, et en fait, qui est venue le visiter finalement assez spontanément, hein, parce qu'elle n'a pas choisi de visiter Milko.
Tout à fait.
Probablement qu'il y a le directeur de prison qui a peut-être joué ou compris un certain nombre de choses. Mm. Mais en tout cas, il y a eu le déclic pour lui, qui, je crois, alors ça c'est mon interprétation, a été de comprendre qu'à un moment, c'est pas toute la société qui était contre lui. Voilà. Mm. Je pense que la vie personnel de Milko avant l'incarcération, je n'en parlerai pas, mais elle explique quand même énormément de choses. Il y a quand même une détresse sociale qui amène à avoir ce genre de comportement. Et que pour lui, la société, le monde adulte, toutes ces choses-là étaient par nature hostiles. Mmh. Et qu'il a compris qu'à un moment, ben non, tout le monde n'était pas hostile, et qu'on pouvait trouver du plaisir dans la littérature, qu'il y a des gens qui pouvaient lui faire confiance, que sa vie n'était pas foutue, etc. C'est cette petite graine qui a été plantée à la tête de Milko par cette personne qui, je crois, a mûri, grandi, etc. Elle lui a donné, lui a ouvert des horizons qu'il n'imaginait probablement pas à ce moment-là.
Tout à fait. Et alors, une autre scène m'a marqué aussi très très fort, c'est cette discussion absolument incroyable qui a lieu entre un des directeurs de prison dans lequel sera incarcéré Milan et Milan. Le directeur, en l'occurrence, semble avoir un respect immense pour Milan, tout à fait honnête et assez fort. Et Milan a l'air d'avoir confiance lui aussi, puisqu'il lui parle, et il lui parle notamment d'un mot que j'ai trouvé... voilà, c'est ça, c'est un frontière pour décrire le temps d'incarcération, et c'est absolument, absolument bouleversant. C'est un mot qui vient de Milko.
Ah oui, c'est un mot de Milko, c'est lui qui l'a inventé, et il a écrit beaucoup de poèmes, Milko, peut-être pendant son incarcération, mais en tout cas après, puisque moi, il m'a fait lire un recueil de poèmes qui s'appelle L'Infrontière. C'est un mot, oui, qu'il a marqué. Il m'en a parlé souvent de cette infrontière. D'ailleurs, quand il en parle, j'ai parfois du mal, moi, à saisir exactement où est-ce qu'il veut en venir. Il y a des notions extrêmement personnelles qui se mêlent à la définition qu'il y met. Il y a des notions philosophiques. Mmh. Il y a un certain nombre de vécus. Il y a beaucoup de choses, en fait. C'est très, 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 très intellectualisé. De toute façon, c'est vraiment un intellectuel, hein, Milko. Mmh. Et c'est effectivement, il en parle avec le directeur de la prison de Bapaume, qui était la dernière prison dans laquelle il a été, qui est un directeur avec qui il a beaucoup sympathisé et à qui il a pu effectivement parler, quelqu'un qui lui a fait confiance, qui probablement est intervenu favorablement dans le fait qu'il a été libéré en conditionnel.
Tout à fait. Alors, 20 ans ferme, un récit pour témoigner de l'indignité d'un système. C'était il y a longtemps, Sylvain Ricard, vous l'avez dit au début de l'entretien. C'est toujours autant d'actualité, malheureusement, surtout par les saletons de fichiers S qui courent. Dites-nous un peu, pour clore un peu plus légèrement, quels sont vos projets actuels ?
Alors, moi, je dirige maintenant, depuis quelques années, la revue Dessinée. Et la revue Topo, il se trouve que c'est une revue d'actualité en bande dessinée, donc je reste un petit peu dans les thématiques moi qui m'intéressent. On est en train de faire, ce ne sera pas pour ce numéro-là, peut-être le numéro de septembre, on travaille avec une journaliste de l'OIP,
d'accord,
justement sur le système carcéral et pourquoi finalement le système qui est proposé par les Français, en tout cas sur lequel la justice française s'appuie, est un modèle complètement obsolète qui n'a plus aucune raison de vivre, d'être, et on essaie de le comparer quand c'est comparable avec d'autres systèmes européens qui sont beaucoup plus progressistes, qui se basent sur des critères économiques, mais surtout des critères de récidive, des critères de réinsertion, en fait. Voilà. Donc on fait un grand sujet là-dessus. Moi, à titre personnel, je fais très peu maintenant de scénarios. J'essaie d'écrire un livre par an, en gros. Et sur les choses assez sociales, je travaille avec mon ami James, avec qui j'avais déjà fait un livre qui s'appelait « À la folie », qui traitait des violences conjugales. Là, je reviens sur les 3 ans que j'ai fait entre 1992 et 1995, où j'étais bénévole Croix-Rouge à Paris, donc avec beaucoup de vacations auprès des sans-abri, des SDF, mais aussi des vacations pompiers. Et je reviens sur cette idée de bénévolat qui, moi, m'a fait rentrer pour donner de mon temps, de mon énergie, etc., et après analyse et après 3 ans passés à l'intérieur du système, qui m'en a fait sortir. C'est un scénario épistolaire que j'ai avec James, où lui se met aussi, utilise mes lettres en fait, et se met en scène lui pour réfléchir à son engagement ou à son non-engagement. Donc ça va être un livre qui va être assez personnel entre lui et moi. Et puis là, je dois rencontrer, alors je ne sais pas du tout si ça va se faire, mais on m'a demandé justement, parce que j'ai fait 20 ans ferme, à rencontrer 2 sociologues, je pense, qui ont écrit des bouquins au Seuil, qui ont travaillé sur la prison, qui voudraient peut-être que je travaille sur une période des années Foucault, moi les années qui m'intéressent, c'est-à-dire la période du GIP, la fin des années 70, le début des années 70, et quand il a fait tout son travail autour des prisons, qu'il a rencontré Livrozet, enfin voilà, dans cette d'ébullition d'extrême gauche avec la création de l'UICML, etc., etc. Et donc de faire peut-être un récit qui se passerait à cette époque-là, et qui reviendrait sur une période l'information, enfin en tout cas le sujet carcéral a été très important avec les révoltes qu'il y a eu dans l'Est, où les gens montaient sur les prisons, à Nancy, à Toul, je crois, ou à Metz. Voilà, donc je reste un petit peu dans ces sujets-là malgré tout.
Sylvain Ricard, c'était passionnant, merci beaucoup. Je serais bien resté une heure de plus avec vous pour continuer cet entretien. Vous ne coupez pas pour autant à la question Rock'n'Page. Quel titre de musique avez-vous choisi pour évoquer ce travail-là, sans en parler ?
Et c'est assez difficile. J'avais pensé, on aurait pu mettre des choses un petit peu violentes, un titre de NTM ou de quelque chose comme ça, mais en fait, moi, j'ai préféré retourner sur une musique qui ne me passionne pas, pour être tout à fait honnête, mais qui est le titre phare de la bande originale d'un film qui s'appelle Le Prisonnier d'Alcatraz, qui était joué par Burt Lancaster et qui raconte la vie réelle de Robert Stroud, qui a été enfermé à Alcatraz à perpétuité et qui a élevé des canaries à l'intérieur de cette prison, etc. Et quand j'ai vu ce film qui m'a été conseillé par Milko et que j'ai revu récemment, c'est incroyable le parallèle qu'on peut faire entre la vie de Milko et la vie de Robert Stroud. Évidemment, c'est un petit peu moins violent sans doute pour Milko, qui a passé que 11 ans en prison, contrairement à Robert Stroud qui en a passé, je ne sais plus, 40 ou 50. Mais c'est incroyable le parallèle qu'on peut faire entre ces deux parcours-là, qui qui, de parcours de violence, sont devenus des parcours intellectuels et philosophiques. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant cette musique qui illustre parfaitement ce livre 20 ans ferme.
Eh bien, merci. Merci infiniment.
Je vous en prie.
Ça, c'était Birdman of Alcatraz, un titre du compositeur Elmer Bernstein, choisi aujourd'hui par Sylvain Ricard lui-même, l'auteur côté scénario de la bande dessinée à l'honneur dans ce numéro de Rock and Page, à savoir 20 ans ferme, récit pour témoigner de l'indignité d'un système. Bande dessinée qu'il a réalisée avec Nico B aux illustrations, le tout édité chez Futuropolis. Cette bande dessinée est, oui, un grand, grand témoignage sur ce que notre État souhaite qu'une prison soit pour une femme ou pour un homme, à savoir une machine à détruire. Si vous faites partie comme moi de celles et ceux qui continuent de penser que c'est pur scandale, le tout en versant des loyers mirobolants à Vinci, qui c'est vrai est souvent au bord du gouffre financièrement, le tout en allouant des budgets de lutte contre la récidive sur les territoires pour acheter par exemple des caméras de vidéosurveillance, alors vraiment, il vous faut vous procurer cette bande dessinée. Si vous faites partie de celles et ceux qui voudraient penser à plusieurs, ensemble, à de nouveaux systèmes pour que ce système en place cesse d'exister et que naisse un modèle autrement moins destructeur et déshumanisant, alors vraiment, il vous faut lire cette bande dessinée. Si vous faites partie de celles et ceux qui n'ont pas encore tout à fait envie de se taire sur certains sujets, alors vraiment. 20 ans ferme de Sylvain Ricard et Nico B, paru chez Futuropolis. Vous devriez pouvoir la trouver dans toutes les bibliothèques autour de chez vous et chez vos libraires aussi. Et bien sûr, vous savez, celles et ceux qui parlent en vous regardant dans les yeux et qui parfois rient ou froncent les sourcils, pas les algorithmes, on est bien d'accord. Merci à Ludo de Divergence FM qui a réalisé cette émission. Moi, je vous dis rendez-vous même heure, même place la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos colères. Elles sont des moteurs magnifiques et c'est quand il n'y en a plus du tout des colères qu'il faudra se faire du souci. Et parole de moi, on commence à être à sec sur la planète. Je vous laisse en compagnie de Quantique pour un morceau qui me semble traiter du temps quand il devient une machine infernale, un petit peu comme c'est le cas en prison finalement.